Chapitre 6e. Le père Richard garda un moment le silence et s'adressa à son fils. « Je t'ai prévenu, mon enfant, que je voulais faire appel à ton bon cœur, à ta tendresse. Ou alors, mon père, vous n'avez qu'à parler. Tu m'as dit tout à l'heure que si parfois tu rêvais une existence meilleure que la nôtre, ce n'était pas pour toi, satisfait de ton humble condition que tu formais ce désir, mais pour moi. Cela est vrai. Eh bien, mon enfant, il dépend de toi de voir réaliser ton désir. Que dites-vous? Écoute-moi. Des revers de fortune qui ont suivi de près la mort de ta mère alors que tu étais encore enfant m'ont enlevé le peu que nous possédions. Il m'est à peine resté de quoi pourvoir à ton éducation. Cette somme dépensée, j'étais réduit à prendre l'état d'écrivain public. Oui, mon bon père, répondit Louis avec émotion, et en voyant avec quel courage, avec quelle résignation vous supportiez la mauvaise fortune, ma tendresse et ma vénération pour vous n'ont fait qu'augmenter. Cette mauvaise fortune, mon cher enfant, peut empirer. L'âge arrive, ma vue baisse, et je prévois avec tristesse qu'un jour viendra où il me sera impossible de gagner le peu qui nous aide à vivre. Mon père comptait sur toi. J'y puis compter, je le sais. Mais ton avenir, à toi-même, est précaire. Ton bâton de maréchal est de devenir second ou premier clerc, car il faut de l'argent pour acheter une étude, et je suis pauvre. Ne craignez rien, je gagnerai toujours assez pour nous deux. Et la maladie? Et les événements? Que des circonstances imprévues peuvent te rendre inoccupé pendant quelques mois. Alors toi et moi, comment vivre? Mon bon père, si nous autres pauvres gens nous pensions à tout ce qui nous menace, nous perdrions courage. Fermons donc les yeux devant l'avenir, ne songeons qu'au présent. Dieu merci, il n'a rien d'effrayant. Oui, il est plus sage, en effet, lorsque l'avenir est inquiétant, d'en détourner la vue. Mais lorsqu'il peut être heureux et assuré, ne faut-il pas ouvrir les yeux au lieu de les fermer? Certes. Eh bien, je te le répète, il dépend de toi absolument de faire que notre avenir soit heureux et assuré. Alors c'est fait. Seulement dites-moi comment. Je vais bien t'étonner. Ce pauvre monsieur Ramon, chez qui tu as passé quelques jours et que tu juges si mal, ce monsieur Ramon est un ancien ami à moi. Lui, votre ami? Ton voyage à Dreux était convenu entre lui et moi. Mais ces actes que mon patron... Ton patron avait obligément consenti à servir notre petite ruse en te chargeant d'une feinte mission auprès de Ramon. Mais cette ruse, à quoi bon? Ramon voulait t'observer, t'étudier, te connaître, sans que tu t'en doutasses, et je dois te déclarer qu'il est enchanté de toi. Ce matin même, j'ai reçu de lui une longue lettre dans laquelle il me fait de toi le plus grand éloge. Je regrette de ne pouvoir lui rendre l'appareil, mais quel intérêt y a-t-il pour moi à être bien ou mal jugé par M. Ramon? Un très grand intérêt, mon cher enfant, car l'heureux avenir dont je te parle était subordonné à l'opinion que Ramon aurait de toi. Mon père, c'est une énigme. Ramon, sans être ce qui s'appelle riche, a une certaine aisance que son économie augmente chaque jour. Peste, je le crois bien. Seulement, je vous en demande pardon pour votre ami. Ce que vous appelez économie est une sordide avarice. Soit, ne disputons pas sur les mots. Mais enfin, par suite même de cette avarice, Ramon laissera après lui à sa fille une jolie fortune. Je dis après lui car de son vivant Ramon ne donne rien. Cela ne m'étonne pas du tout, mais en vérité je ne comprends pas où vous voulez en venir, mon père. J'hésite un peu, parce que si fausse, si injuste que soient les premières impressions. Je sais combien elles sont tenaces et tu as jugé si sévèrement, mademoiselle Ramon, le nez rouge. « Ah, dis donc que j'ai été très indulgent pour lui !»« Tu reviendras, j'en suis certain, de ses préventions. Crois-moi, mademoiselle Ramon est de ces personnes qui gagnent à être connues, appréciées. Je te le répète, c'est une femme d'un esprit ferme et d'une piété exemplaire. Peut-on désirer mieux pour une mère de famille ?»« Une mère de famille ?» reprit Louis, qui jusqu'alors, très loin de soupçonner ce dont il était menacé, commençait cependant de concevoir une crainte vague. Une mère de famille, et que m'importe à moi que mademoiselle Ramon soit ou non bonne mère de famille? Cela doit importer plus qu'à personne. À moi, certes. Et pourquoi cela? Demanda Louis avec anxiété. Parce que mon plus vif, mon unique désir, dit résolument le vieillard, serait de te voir épouser mademoiselle Ramon. Épouser mademoiselle Ramon? S'écria le malheureux Louis, en se reculant sur sa chaise par un mouvement d'épouvante et comme s'il eût vu soudain apparaître le nez rouge. « Moi, épousé ?»« Oui, mon enfant, » s'écria le vieillard de sa voix la plus pénétrante. « Épouse Mademoiselle Ramon et notre sort est à jamais assuré. Nous allons habiter Dreux. La maison de Ramon est suffisante pour nous loger tous. Il ne donne rien en dot à sa fille, mais nous vivrons chez lui, c'est convenu d'avance, et il a pour toi la certitude d'une bonne petite place dans les contributions indirectes. Mais à la mort de ton beau-père, tu hériteras d'une jolie fortune. Louis, mon fils bien-aimé !» ajouta le vieillard d'un ton suppliant, et en serrant les mains de son fils entre les siennes, « je t'en conjure, consens à ce mariage, et tu me rendras le plus heureux des hommes, car au moins je mourrai assuré sur ton avenir. « Ah, mon père, vous ne savez pas ce que vous me demandez là !» répondit Louis, avec autant d'accablement que de stupeur. « Tu vas me dire que tu ne ressens aucun penchant pour Mademoiselle Ramon. Et mon Dieu, en ménage, une mutuelle estime est suffisante, et tu m'accorderas du moins que cette estime, Mademoiselle Ramon, la mérite. Quant à son père, je comprends qu'à la rigueur, ce que tu tiens à appeler avarice, t'es d'abord choqué, mais elle te semblera moins odieuse. » lorsque tu réfléchis qu'après tout, c'est toi qui devras profiter un jour de cette avarice. Ramon, au fond, est un excellent homme. Son seul désir est de laisser à sa fille et au mari qu'elle choisira une petite fortune. Pour arriver à ce but, il renferme ses dépenses dans de sages limites. Faut-il lui en faire un crime? Allons, Louis, mon cher enfant, réponds, donne-moi une bonne parole d'espoir. « Mon père, » dit le jeune homme d'une voix altérée. « Il m'en coûte. » de contrarier vos projets, mais ce que vous me demandez est impossible. Louis, est-ce bien toi qui me réponds ainsi lorsque je m'adresse à ton cœur, à ta tendresse pour moi? D'abord, il n'y a dans ce mariage aucun avantage personnel pour vous. Vous ne songez qu'à moi. Comment? Demeurer chez Ramon et vivre chez lui sans dépenser une obole? C'est convenu, te dis-je. Il nous prend tous en pension gratuitement, au lieu de donner une dot à sa fille. « Mon père, tant que j'aurai une goutte de sang dans les veines, vous ne recevrez l'aumône de personne. Bien des fois, je vous ai supplié d'abandonner votre profession d'écrivain public, me faisant fort de subvenir à vos modestes besoins par un surcroît de travail. Mais malheureux enfant, si tu tombes malade, si l'âge me rend incapable de gagner ma vie, il me faudra donc aller à l'hôpital ?»« J'ai foi en mon courage, je ne tomberai pas malade, et vous ne manquerez de rien. » Mais si j'avais le malheur d'épouser Mademoiselle Ramon, je mourrais de chagrin. Louis, une telle réponse n'est pas sérieuse. Elle l'est, mon père. Dans votre aveugle tendresse, vous n'avez pensé qu'à me faire contracter une union avantageuse. Je vous en suis profondément reconnaissant. Mais ne parlons plus de ce mariage. Il est, je vous le dis, impossible. Louis, j'éprouve et j'éprouverai toujours une aversion invincible pour Mademoiselle Ramon. Et puis, il faut bien vous l'avouer, j'aime une jeune fille, et celle-là seulement sera ma femme. Ah, mon enfant, autrefois j'avais ta confiance, et tu as pris une résolution si grave à mon insu. Je me suis tue jusqu'ici à ce sujet parce que je voulais que cette affection présentât des garanties de durée, telles qu'il me fait permis de vous parler sérieusement de mes projets. Moi et la jeune fille que j'aime, nous étions convenus d'attendre une année afin de voir si nos caractères sympathiseraient longtemps. Et si ce que nous prenions à son début pour une passion réelle ne serait pas un attachement éphémère. Grâce à Dieu, notre amour a résisté à toutes les épreuves. L'année que nous avions fixée expire aujourd'hui même. Je comptais voir demain la jeune fille dont je vous parle, afin d'être d'accord sur le jour où elle ferait sa demande à sa marraine, qui l'a élevée, et où je vous ferai ma demande de mon côté. Pardon, mon père, ajouta Louis en interrompant le vieillard qui allait prendre la parole. Un mot encore. La jeune fille que j'aime est pauvre comme nous et ouvrière de son état. Mais c'est le meilleur, le plus noble cœur que je connaisse. Jamais vous ne trouverez de fille plus dévouée. Le fruit de son travail et du mien suffira à nos besoins. Elle est, ainsi que nous, habituée aux privations. Je redoublerai de zèle, d'efforts, et croyez-moi, vous trouverez le repos et les soins qui vous sont nécessaires. Permettez-moi un dernier mot. Rien ne m'est plus pénible que de différer de vue avec vous. C'est la première fois, je crois, que cela m'arrive. Aussi, je vous en supplie, épargnez-moi le chagrin de vous faire de nouveaux refus. N'insistez plus au sujet de ce mariage. Je ne m'y résignerai jamais. Je vous en donne ma parole, comme je vous jure aussi, par ma respectueuse affection pour vous, que je n'aurai jamais d'autre femme que Mariette Moreau. Louis prononça ces derniers mots d'un ton à la fois si respectueux mais si résolu, que le vieillard, qui avait d'ailleurs une arrière-pensée, ne crut pas devoir alors persister et répondit à son fils d'un air chagrin et fâché. « Je ne puis croire, Louis, que toutes les raisons que je vous ai données en faveur de ce mariage restent sans valeur à vos yeux. J'ai plus de foi dans votre cœur que vous n'en avez vous-même. Je suis certain qu'en réfléchissant, vous reviendrez à des pensées plus sages. Mon père ne l'espérait pas. Selon votre désir, je n'insisterai point, mais je compte, vous dis-je, sur vos réflexions. Je vous donne 24 heures pour prendre une résolution définitive. D'ici là, je vous promets de ne pas vous dire un mot de ce mariage et je vous prie à mon tour de ne pas m'entretenir non plus de vos désirs. Après-demain, nous aviserons. » « Soit, mon père, mais je vous assure que ce jour expiré, je... » « Nous sommes convenus de ne plus parler de cette affaire, » dit le vieillard en se levant. Il se promena silencieux dans la chambre, jetant parfois à la dérobée un regard sur Louis qui, la tête appuyée dans ses deux mains, restait pensif et accoudé sur la table, où était déposée la lettre qu'on lui avait remise quelques instants auparavant.